Vous écoutez France Musique.
L'enfant est le maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magister, se tournant à ses cris d'un ton fort grave, à contre-temps, s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis, prenez de tels fripons le soin, que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de maux et que je plains leur sort.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Matin des Musiciens. Comme chaque lundi, vous savez, nous avons de la chance ici dans le studio 118 d'accueillir les musiciens qui viennent jouer et parler de leur art. Ce matin, c'est un événement par le fait que cela fait longtemps que j'attendais ce moment radiophonique à partager avec vous, avec des grands musiciens, un grand musicien de la viole de gambe. 25 ans avant tous les matins du monde, il dressait déjà les fondations de son monde sonore jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui unique, nous le passons avec Willem Kuyken ce lundi et François Joubert-Caillet au programme les pièces à deux viols de Johannes Schenk et de ses contemporains. Bienvenue à eux et bienvenue à vous. Alors voilà, nous sommes bien installés dans le studio 118 avec vous, Willem Kuyken. Bonjour.
Bonjour Edouard.
Bienvenue à vous, Willem Kuyken. Je suis très content de vous accueillir. Et bienvenue à vous, François Joubert-Caillet.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Est-ce que c'est un petit peu comme Marin Marais qui avait, selon la légende, l'oreille collée à la cabane de son professeur sieur Sainte-Colombe et qui écoutait ? Parce que vous n'avez pas du tout pris de cours avec...
J'ai juste rencontré Willem sur un stage. Donc c'était la durée d'un stage, c'est-à-dire une petite semaine. C'était en Norvège, c'était il y a quelques années. Donc je ne sais pas si j'ai le droit de dire que j'ai étudié avec lui, je ne pense pas.
En tout cas,
il m'a beaucoup inspiré, ça c'est
sûr. Ça
n'a
aucune importance.
Est-ce que c'est vrai, Willem Kuyken, que les élèves, en réalité, ce sont eux qui vous éduquent et qui vous apprennent des choses ?
Aussi, bien sûr. Ça va toujours dans les deux directions. On apprend avec les étudiants et on espère que les étudiants apprennent quelque chose avec nous aussi.
Quand est-ce que s'est fait la bascule du violoncelle à la viole de gambe, Willem Kuyken ? En quelle année ?
Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. J'ai plutôt basculé de la viole au violoncelle. C'est-à-dire de la vielle. On avait des vielles à la maison. On avait fait ça fabriquer en Allemagne dans les années 50 déjà. Et c'était des instruments qui ne valaient pas grand-chose, mais qui étaient accordés comme des viols. Et ça, c'était en fait le début de la légende, si vous voulez, de ma famille en musique ancienne.
Et le premier contact, du coup, avec la viole, c'était familial ?
C'était familial, oui, disons, oui.
Et de quelle manière ?
C'est-à-dire, on avait été à un cours, une espèce de stage, où on a fabriqué les instruments soi-même, en Allemagne. C'était, en Allemagne, vraiment « Haus- und Schulmusik ». C'était vraiment pédagogique à l'époque. Comme la flûte à bec aussi en Allemagne avant, et pas seulement en Allemagne, je pense. Alors on a fait ça, on est arrivé à la maison avec deux instruments. Puis au début, on ne savait pas trop bien quoi faire avec. Mais quand même, on a commencé à jouer n'importe quoi là-dessus, n'importe quoi. On avait des bouts de sonates de Mozart, des petits thèmes d'ici et de là. Puis à l'époque, on avait toujours aussi des éditions 7e symphonie de Beethoven pour piano et peut-être pour piano et violon. Si on avait un peu plus d'argent, c'était deux pianos ou piano et deux violons. Mais c'était comme ça à l'époque. Et nous, on jouait tout ce qui nous tombait sur la main. Je parle de 6 ans et moi. On a 6 ans de différence. Alors moi, je suis l'aîné des musiciens, mais je suis seulement le troisième des six garçons dans la famille.
Vos parents étaient musiciens ?
Non, pas du tout. Mais des deux côtés, il y avait des musiciens dans la famille et beaucoup d'amateurs. Du côté de ma mère, il y avait presque tous ses frères. Elle était la 13e de 13. Jouait dans une fanfare ou faisait du théâtre amateur ou n'importe quoi. Du côté de mon père, il y a eu un artiste professionnel. Mais mon père était en fait le seul chez lui. Il était le 7e de 9. Mais lui, il n'a pas joué d'instrument parce qu'il chantait tellement faux, on disait. C'est vrai, c'est une anecdote, mais c'est vrai. Et lui, il était plutôt versé vers les sciences. Les six frères chez nous aussi, il y en a deux qui sont vraiment plutôt scientifiques. Et le restant, c'est plutôt dans les arts quand même. Trois musiciens, un peintre.
Alors François-Hubert Caillet, le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de votre disque que vous avez fait paraître il y a quelque temps chez Richard Carr. C'est Johannes Schenk. C'est un répertoire absolument fascinant qui date en gros, que sait-on, de 1702-1701, date de parution.
Ouais.
Les nymphes du Rhin.
Ouais.
Est-ce qu'on va parler de muses un petit peu dénudées et d'éléments de figuralisme aquatique ou alors pas du tout ?
Pas vraiment, en fait. Comme l'explique Jérôme Lejeune dans le livret, a priori, c'est par rapport au patron de Schenk, qui était donc près du Rhin. Et donc, du coup, c'est juste une espèce de... Peut-être en rapport avec la féminité de l'instrument. C'est un répertoire de viols égales, de viols, de nymphes. Une allusion comme ça à ça.
Alors c'est en tout cas la grande tradition de la viole allemande sur laquelle bien nous reviendrons avec vous. Et on ouvre ce matin des musiciens justement avec la sonate numéro 3 de Johannes Schenk, Wilhelm Keuken. Merci d'être avec nous, François-Joubert Caillet.
Thank you.
Eh bien oui, c'est un voyage à travers l'Europe que nous venons de faire avec vous, Wieland Kuijken et François Joubert Caillet, sur votre disque paru chez Richard Carr, Johannes Schenk, Les Nymphes du Rhin, magnifique musique allemande de ce compositeur qui, au gré de ses voyages, justement changeait aussi son prénom. On a du Giovanni, du Johannes bien sûr, qui est né à Amsterdam mais qui a exercé en Allemagne. Alors sur ce qu'on vient d'écouter, oui. On parlait des goûts réunis. Wieland Kuijken.
Oui, absolument.
Parce qu'il y a un kaléidoscope européen, absolument. Où ici et là, le but n'étant pas de dire que c'est comme, mais qu'en tout cas, il y a des sortes de petits clins d'œil à l'Italie, à l'Angleterre un petit peu aussi.
Oui, c'est post-corélien, et ça, il n'y a rien à faire. La musique a changé à ce moment-là. Quand on a entendu Corelli, les compositeurs français aussi, même Marais, même les Français, hyper Français, ils l'ont entendu, il n'y a rien à faire. Il y a toujours eu des influences très fortes, il n'y a rien à faire.
Mais alors, que sait-on justement sur cet effectif qui est à la fois un effectif un peu de fortune, c'est-à-dire que quand on... Il ne faut pas être assez rigide, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a deux viols, que ça pouvait être deux, ça pouvait être... Il pouvait y avoir peut-être du continuo, ça pouvait être remplacé par deux autres dessus. Mais quand même, on a l'impression, de par tous les exemples qu'on va voir dans ce matin des musiciens, que l'effectif... en tête-à-tête, en face-à-face, duo, duel, assez fusionnel, que cette notion de concert à voix égale ou à viols égales, hein, Sainte-Colombe, on le verra, c'est quand même un genre en soi. Est-ce que je me trompe ?
Non, je ne trouve pas que vous vous trompez. C'est le jeu typique de la viole qui est en même temps harmonique et mélodieux, qui peut faire les deux. Et ça, avec une flûte, un violon, ça va un peu, mais moins, il y a moins d'harmonie que... à la viole, qui a quand même 6 cordes ou 7 cordes. Donc ça fait quand même 12 ou 14 cordes. Tandis que deux violons, ça fait que toujours pas plus que 8. Et aussi, la nature de l'instrument, la viole, elle a quelque chose comme le théorbe aussi, une grande résonance, une longue résonance, beaucoup plus longue que le violoncelle, parce que les cordes sont moins tendues et il y a plus de cordes, donc il y a plus de résonance. Sympathique, déjà.
Mais alors justement, Wieland Kuijken ou François Joubert Caillet, quand on joue des choses qui évoquent des danses ou des allégros un peu coréliens, comment réagit la corde, justement, de la viole ?
Mais comme disent les Français, en fait, il n'y a que les Français qui parlent des techniques, vraiment. Ils disent toujours qu'il faut que la chaise soit un peu comme la plume du clavecin ou comme le doigt qui fait vibrer les cordes du théorbe ou du luth. C'est-à-dire... Donc il faut bien entendre le début. Et puis après, on peut faire ce qu'on veut avec le son, avec un long son. On peut faire crescendo, diminuendo, on peut faire 3 fois crescendo dans le même coup d'archet ou n'importe. Mais le début doit être clair. Et ça, c'est une des choses les plus... Surtout dans les allégros, hein, quand il y a pipa, pipa, des choses comme ça, on n'a pas le temps de faire... Oui, 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 ça ne va pas, évidemment. Non, mais ça, on va changer les cordes. Mais il faut que la main gauche soit vraiment bien tenue pour que la résonance continue. Ça, les luthistes et les guitaristes peuvent faire ça, ils font ça automatiquement. Les violoncellistes, non, ils n'ont pas l'habitude, c'est toute autre chose.
Précision dans l'attaque aussi, parce que c'est vrai que ce langage de la résonance de la viole, on a un peu l'impression parfois que ça a eu tendance à faire oublier le geste même de l'attaque, François Joubert Caillet.
Oui, c'est vrai. L'idée de l'attaque, en tout cas pour moi, de l'attaque de la corde de la viole, c'est un peu comme faire un pitz avec un archet. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette idée d'attaque indirecte, parce qu'il y a l'archet. C'est pas comme avec une guitare où on a le doigt directement sur la corde. Là, il y a l'archet qui le fait. Et du coup, après, comme disait Wieland, on fait un petit peu ce qu'on veut après. Et c'est vrai que dans l'esthétique de la viole, parfois, on a un peu l'impression, ça dépend aussi de l'acoustique dans laquelle on entend la viole, mais d'entendre un peu « waouh, 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 waouh », on n'entend pas vraiment cette attaque, alors que c'est vrai que c'est l'essence même de l'instrument. C'est ce qui fait que quand on aborde un répertoire comme celui-là, où on est à la fois accompagnant et accompagné, des fois c'est Wieland qui fait la partie du haut et moi le bas, et puis parfois on change, c'est nécessaire du coup d'avoir ce jeu harmonique à deux. Et quand on n'a pas cet aspect-là de la technique d'archet, de se faire des pits avec l'archet, du coup, ça peut un petit peu déranger un petit peu l'écoute et la compréhension du répertoire de cette musique-là, en tout cas.
Alors, vous parliez, Wieland Kuijken, du style français. Et bien, justement, dans Les Nymphes du Rhin de Schenk, il y a quand même un petit peu de cette esthétique française.
Thank you.
la sarabande d'une des suites des Nymphes du Rhin de Johannes Schenk par vous, Wieland Keuken et François Joubert Caillet, de ce disque paru chez Ricerca. Nous sommes dans les années, à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe, puisque ce recueil paraît en 1702. Et là, on a vraiment une illustration très claire, très très belle, d'un style plein, qui évoque, de par cette sarabande, une esthétique un peu française, hein, Wieland Keuken, bon, mine de rien, même si c'est jamais que ça.
Ce n'est jamais que ça, ou presque jamais que ça. Parce que même Marais écrit des sarabandes en espagnol. Alors j'ai demandé à un espagnol assez connu ce que Marais voulait dire avec ça, et il a dû dire, ah, je ne sais pas.
C'était qui cet espagnol connu?
Le plus connu, quoi.
Jean-Yves Saval, oui.
Pour des sarabandes en espagnol de Marais, je crois que ce qu'il appelle à l'espagnol, c'est plein d'accords et c'est un peu plus sauvage. Tandis que beaucoup de sarabandes de Marais sont d'une simplicité incroyable, presque tout à fait dénudées, mais tellement belles. Ce qu'on vient d'entendre de Schenk est plutôt du genre épuré, pas du tout à l'espagnol, à mon avis.
Après, par rapport à Schenk, il y a quand même, sur les 12 sonates de ces Nymphes du Rhin, nous on n'en a enregistré que 6 là, il y a très clairement certaines sonates qui ont une forme italienne, mouvement lent, rapide, lent, rapide, lent, rapide, et d'autres qui ont des formes françaises. C'est le cas de cette 8e sonate où il y a donc cette sarabande en do mineur qu'on vient de jouer. Il y a très clairement la danse, toutes les danses typiques en tout cas d'une suite française. Donc au moins il y a la forme. Après, forcément, c'est les goûts réunis à l'allemande, c'est-à-dire que c'est quand même avant tout déjà du Schenk, qui s'inspire un petit peu d'une forme à la française.
Vous parliez d'un espagnol très connu, donc Jordi Savall, avec lequel, Wieland Keuken, vous avez enregistré en 1976 et en 1992 des magnifiques pièces, des concerts à deux viols égales de Sainte-Colombe, qui était le professeur de Marais. Et c'est vrai qu'en tant qu'auditeur fou de cette musique-là, on se dit, mais est-ce que vous avez des souvenirs, Wieland, de cet enregistrement?
Oui, bien sûr, j'ai des souvenirs. Je me rappelle qu'on avait des instruments différents. Je crois que pour le premier enregistrement, Jordi avait une viole française de la collection de la comtesse de Chambure, il me semble. Et moi, je jouais une viole qui est peut-être tyrolienne, c'est ce que les spécialistes disaient. C'est un instrument qui a été, comme beaucoup d'instruments, réduit en forme. On a des plus grands instruments, parce que c'est toujours plus facile d'enlever du bois que d'en rajouter. Et le dos et le cyclisme étaient très beaux bois. La table était probablement fin 19e ou même 20e siècle. Et la viole d'Jordi, c'était une viole française à 7 cordes, assez jolie, je dois dire. Tandis que le deuxième disque, j'avais la Bertrand, que je vais jouer maintenant.
Que vous avez là devant
oui,
moi.
Oui.
Date de 1704.
Jordi jouait sur la baraque normande à ce moment-là.
Et votre viol, Wieland Keuken, date de
1704. Et puis il y a un zéro, mais le dernier chiffre est illisible.
D'accord, donc entre 1 et 9.
C'est Nicolas Bertrand.
Alors on va vous écouter dans une chaconne justement d'un de ces concerts à deux viols égales. Est-ce que justement c'est important d'avoir des instruments qui vont bien ensemble, qui sont proches de par leur sonorité, ou alors de jouer justement la carte de la différence des sons? Wieland, c'est un maniérisme, on s'en fiche?
Moi, je suis toujours un peu contre l'égalité, trop uniforme, trop forcée. Alors ça devient un peu inhumain, je pense. Il n'y a pas deux chanteurs qui ont la même voix. Il n'y a pas deux gambistes qui jouent de la même façon. Et ce n'est pas nécessaire, je pense. Parce que quand on joue des pièces comme ça, c'est quand même une discussion. Il faut bien s'entendre. Il ne faut pas se battre, ça c'est pas beau non plus. Cette chaconne aussi, c'est vraiment une discussion entre deux personnes. Et c'est parfois assez heftig, comme on dit.
Dur.
C'est, non, costaud. Pas dur, mais...
Viril.
Ouais.
C'est vrai qu'Hubert Leblanc, on y reviendra, parler d'harmonie mâle et d'harmonie femelle. Je trouve que quand même dans la viole, il y a toujours cette dimension...
Femelle.
Oui, femelle, oui.
Oui, et le violoncelle, c'est mâle. La flûte traversière... La traverso, c'est masculin, la flûte à bec, c'est féminin, c'est ce qu'on disait à l'époque.
Alors on vous écoute tout de suite, Wieland Keuken et François Joubert Caillet, avec nous dans le studio 118, dans cette chaconne, extrait d'un des concerts à deux viols égales de Sainte-Colombe. Merci d'être avec nous. Mmh. Wieland Keuken et François Joubert-Caillet, ici dans le studio 118, dans cette magnifique chaconne, extraite d'un des concerts à deux viols égales de Sainte-Colombe, il y en a à peu près 60. Et c'est vrai que c'est un répertoire vraiment magnifique. Sainte-Colombe, le professeur de Marin Marais, que vous avez enregistré, donc Wieland Keuken, hein, je le dis, premier tome 1976 et deuxième avec Jordi Savall en 1992. Et précipitez-vous sur ce répertoire qui est vraiment, vraiment magnifique. Tout à l'heure, on parlait avec vous deux du fait d'avoir une attaque assez claire, à la fois dans le coup d'archet et dans la fermeté de la main gauche, c'est-à-dire de ne pas brouiller les pistes que le halo sonore peut naître après, dans la pression, de la résonance, etc. Ce que je me suis toujours demandé, et surtout à l'écoute du premier tome de ces pièces avec Jordi Savall, c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait comme une mise en scène de l'hésitation elle-même, que l'hésitation, c'est une manière de conserver une posture un peu interrogative. Est-ce que ça, c'est un peu tiré par les cheveux ou pas, Wieland ?
Je n'ai jamais pensé à ça, mais si vous pensez que si ça vous fait penser à ça, il faut bien sûr qu'il y aurait un peu de ça dans ce qu'on a fait, ou dans cette musique. Mmh. Moi, j'ai jamais pensé comme ça, en fait. Hésitation, non. Je trouve que...
De ne pas refermer l'espace de l'expression, c'est-à-dire de toujours, en même temps qu'on fait un geste, de laisser l'expression ouverte.
Je crois que c'est un effet rhétorique, c'est une manière de, un peu comme le rubat, où c'est une manière de garder l'attention. C'est un effet très naturel quand on joue, de rajouter des espèces de petits silences, de mettre un petit peu de pause entre certaines notes. Ça permet de réfléchir, de mettre des mini-virgules, mais on fait ça quand on parle aussi. Et c'est une manière d'accentuer certains mots, d'accentuer certaines notes, certains accords. Alors ça peut donner une sensation d'hésitation peut-être, c'est aussi un effet rhétorique qui est intéressant. Mais voilà, on peut prendre un peu de temps, après on avance plus. Enfin, il ne faut pas non plus donner le mal de mer, mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit calculé non plus. Je crois que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas conscience d'hésiter, parce que c'est quelque chose de complètement naturel dans l'agogie, dans la rhétorique musicale quand on la joue.
Et puis on se dit, c'est vrai que l'agogie, est-ce que l'agogie n'est pas quelque chose de son temps aussi, que cette notion d'hésitation entre 76 par exemple et 92, dans vos deux enregistrements, on a l'impression quand même que les choses ont un peu changé aussi.
J'espère bien, parce que ce ne serait pas joli de rester les mêmes pendant 12 ans, ou combien d'années il y a, ou 20 ans,
16 ans.
Je ne peux pas compter, 16 ans, ben voilà, 16 ans. Ce serait dommage de pédaler sur place. Hein.
Ben justement, on parlait du côté femelle et mâle, hein. Ce sont des termes utilisés, rapportés à l'harmonie par Hubert Leblanc, donc on est un petit peu après, hein, 1740, mais c'est quand même assez intéressant. Et bien justement, le côté efféminé qui caractérisait un des francs-tireurs les plus attachants de l'histoire de la viole de gambe, c'est Tobias Hume, qui disait, étant dans sa carrière soldat, ça c'est pour l'histoire, que la musique lui permettait d'exprimer son côté efféminé. Et donc, il fait paraître Tobias Hume en 1605-1607, le premier recueil de Lyre à viole. En quelques mots, François ou Wieland, lyre à viole, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce n'est pas vraiment de la lyre à viole. C'est-à-dire que la lyre à viole, c'est donc de jouer une espèce de viol de gamme, mais en scordatura, c'est-à-dire avec
donc
un accord
désaccordé.
Par exemple, un accord de ré majeur. Il y a plein d'accords de lyre à viole, ça c'en est un exemple.
Alors, on en recense une cinquantaine.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Je pense qu'il y en avait plus.
Là, avec Tobias Hume, c'est un accord, entre guillemets, normal de viol de gamme, mais c'est quand même un jeu qu'on appelle le jeu d'harmonie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste une mélodie, mais on joue des accords. Donc ça, c'est sûr que c'est une première, en tout cas en Angleterre à cette époque-là.
Thank you. The Spirit of Gambo, l'esprit de la viole de gambe, Tobias Hume, avec donc deux violes qui dirigent ici, donc Paolo Pandolfo et Guido Balestracci, et puis une voix qui fait la basse, Juan Manuel Quintana. Et c'est vrai que alors là, c'est dans un accord, on va dire, à peu près classique. Hein. Si vous nous rejoignez dans le matin des musiciens, nous sommes avec vous, Wieland Keuken et François Joubert-Caillé, pour ce disque Johannes Schenk, donc 1700. Là, nous sommes bien sûr un siècle plus tard. Oui, enfin plutôt plus tard avec Schenk et plutôt avec Hume. Et c'est vrai qu'on essaie de dresser un petit peu la généalogie de cet effectif à deux violes. Et dans ce que vous disiez, François Joubert-Caillé, la lyre à viole, c'était un instrument différent, avec des accords différents, parfois des cordes sympathiques, hein, surtout aussi derrière. Et puis, cette idée quand même du micro et du macro, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à deux lyres à viole ou à trois lyres à viole de la musique de consort qui était généralement interprétée à cinq violes. Et je trouve que c'est quand même très intéressant parce que quand vous jouez à deux lyres à viole, je ne sais pas si vous en jouez, Wieland Keuken.
J'en ai fait un peu, mais pas souvent.
Donc c'est un instrument qui est quand même bien différent.
En Angleterre, c'est difficile à dire. Chez Hume, il parle des cordes sympathiques. Il parle aussi de neuf cordes au lieu de six. Il faut doubler les trois basses, il dit. Mais il ne dit pas si c'est à l'octave comme on lutte ou pas. Donc on ne sait pas trop bien. On ne sait vraiment pas trop bien ce que c'était. Et la lyre à viole n'était pas toujours accordée différemment de la basse. La notation, c'était toujours en tablature. Ça, c'est très pratique quand on change l'accord parce que les doigtés ne changent pas. On marque avec la tablature l'endroit où on met les doigts. Alors quand on ne connaît pas l'accord, c'est même parfois difficile de s'imaginer comment ça va sonner. Hein? Tandis que si c'était marqué par note, ce serait très difficile de s'accommoder à tous les accords très différents. Mais l'instrument, il y a beaucoup de pièces en Angleterre qui se jouent lyra way, à la façon de lyra.
À la façon de lyra.
Donc, ce n'est pas tellement clair tout ça.
François Joubert-Caillé.
Par rapport à la lyra way, il y a vraiment l'idée que ça peut être un instrument particulier, que ça peut être aussi un accord particulier, mais que ça peut être aussi
un style,
mais que c'est aussi, ça peut être fait aussi sur un instrument normal. Ce qui est sûr, c'est que quand vous commencez à jouer une pièce pour lyra viol avec un accord différent, par exemple, quand vous avez un accord entier, votre viol à six cordes, c'est un accord de ré majeur, vous avez l'impression d'avoir une cathédrale entre les jambes. C'est assez génial comme sensation. À deux viols, c'est encore mieux. Cette sensation, justement, de ce que décrivait Wieland, c'est donc écrit en tablature. Quand on déchiffre une telle musique, et même d'ailleurs quand on la lit et qu'on la connaît bien, on ne sait pas trop ce qui va sortir. Et du coup, ces effets de résonance qui sont démultipliés grâce à tous ces accords différents, fait du coup, il y a un peu un effet de surprise. On se surprend soi-même. Et ça, c'est très, très agréable pour le joueur. C'est très, très sympa comme jeu.
Il y a un désavantage avec les accords de lyra, si c'est des accords vraiment typiquement ré majeur, n'essayez pas de jouer fa majeur parce que ça ne sonnera pas.
Oui,
ou si bémol, ça ne sonne pas. Donc c'est vraiment des pièces, déjà l'harmonie est en fait déjà fixée. Il n'y aura jamais de grands changements de tonalité dans ces pièces-là.
De modulation.
Donc ça, c'est bien pour ré majeur, mais c'est mauvais pour tous les autres.
Et même quand on veut faire des diminutions, c'est très dur. Parce que du coup, entre les cordes, on ne sait pas forcément comment les cordes sont accordées. Donc on commence à faire une diminution, puis on se retrouve à faire n'importe quoi. Parce qu'on n'est plus sur la bonne corde. On a des réflexes du coup qui doivent complètement changer. C'est plus du tout la même chose.
Mais le jeu lyra, c'est surtout harmonique.
Bien sûr, c'est ça.
On verra justement un petit peu plus tard que ça donne lieu à des débats en France, sur notamment autour de Rousseau, de Machy, etc. Des gens qui, à la même époque, 1686-1687, ont une vision complètement différente de la viole, instrument plutôt mélodique ou instrument plutôt harmonique. Alors, vous parliez de lyra viol. On va écouter justement ici une petite pièce de Ferrabosco, encore un Italien qui est allé très tôt en Angleterre pour importer justement le répertoire de la basse de viol et du consort. Et ici, avec deux lyra viol, vous parliez de cathédrale. C'est un peu cette impression qu'on a.
Thank you.
une gaillarde de Alfonso Ferrabosco par Jane Hartmann et Irene Klein, interprétée à deux lyra-violes, François Joubert Caillet, Wieland Keuken. Et c'est vrai que bon, il y a quand même un jeu de résonance qui est un petit peu plus ample. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si vous nous rejoignez, on parle bien sûr avec vous, Wieland Keuken et François Joubert Caillet, de Johannes Schenk, Les Nymphes du Rhin, et d'esthétique, puisqu'on parlait d'harmonie et de mélodie. Et je sais, Wieland Keuken, que vous avez enregistré en 1980, ce n'est pas le seul, mais un disque avec votre frère Sigiswald,
oui.
Consacré à ce magnifique répertoire de Division Viol, donc de division à l'anglaise, avec votre frère. Mais entre vous deux, entre Sigiswald et vous, qui a commencé en premier la viol?
Mais en fait, on a commencé en même temps. On a 6 ans de différence, mais on a eu les instruments en même temps. Donc, il a toujours pris 6 ans d'avance sur moi.
C'est une manière de voir les choses. Alors, on a quand même, au même moment, l'impression que, donc à l'époque même de Schenk, en réalité, qu'il y a des gens, des partisans comme Demachy, qui considèrent que la viol est un instrument vraiment harmonique, et d'autres qui considèrent qu'elle est avant tout un instrument mélodique. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça?
Je pense qu'ils se bataillaient un petit peu, histoire de se batailler. Enfin, concrètement, quand on voit justement comment la musique est écrite à l'époque, même Demachy, qui considère que la viole de gamme est un instrument harmonique, il dit que de jouer juste une mélodie à la viole, c'est aussi ridicule que de jouer juste avec un doigt du clavecin. Quand on voit sa musique, c'est vrai qu'il y a au moins toujours, la plupart du temps, deux notes, mais c'est quand même très, très mélodique. Donc il y a quand même toujours un mélange des deux. Sainte-Colombe, il y a toujours un mélange des deux. Marin Marais, même un peu plus tard, même dans son cinquième livre, même si ça peut être très mélodique, il y a toujours un petit peu des deux. C'est l'identité de la viole, le mélange des deux. Après, je pense que c'est Rousseau qui est plus fervent du jeu de mélodie. Est-ce que c'est parce qu'il veut italianiser l'instrument? Est-ce que c'est il veut corellianiser l'instrument? Je ne sais pas.
Wieland Keuken.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est comme des journalistes qui se battent un peu. Mm-hmm. Ils étaient connus tous les deux et ils ont voulu faire de la poussière, remonter la poussière pour se mettre un peu en avant, je crois, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement différent, je trouve. La musique de Machi, moi, j'ai souvent trouvé que c'est un peu comme quelqu'un qui fait un devoir d'harmonie et qui n'arrive pas à la fin et qui travaille de la fin vers les milieux, mais qui n'arrive pas très bien à faire les joints entre le début et la fin. C'est toujours un peu tordu, je trouve, cette musique-là. Mais je suis peut-être le seul à dire ça parce que je sais que beaucoup de Français adorent ça. Moi, je trouve qu'il y a quelques pièces qui sont pas mal, mais en général, ça manque de naturel, je trouve. C'est très fabriqué, à mon avis.
Moi, j'aime beaucoup Demachy, mais quand on lit sa préface, on sent en effet quelqu'un d'un petit peu compliqué. Et je pense que vis-à-vis de Rousseau, ils ont dû pas très bien s'entendre, ça c'est évident. Il y a eu un truc, je pense, plus un problème d'ego, comme dit Wieland. Après, sa musique, c'est sûr qu'elle est un petit peu à part par rapport à ce qu'on peut entendre à cette époque-là. Mais en même temps, même quand on écoute d'autres compositeurs un petit peu plus tôt, Dubuisson, c'est aussi un peu à part, c'est-à-dire que chacun aussi a son identité.
Oui. Pour Dubuisson, je trouve que c'est plus naturel.
Oui.
Ce ne sont pas des grandes pièces, ce ne sont pas des choses pour faire tout un programme de concert. Ce sont des petites pièces à jouer chez soi. Mmh. Et puis en plus, avec la poussière que j'ai dit, entre Rousseau et Demachy, il y avait un grand machin qui en fait était un peu ridicule, c'est la tenue de main.
Oui.
Ah ben alors ça, on a beaucoup glosé justement sur ce port de main arrondi.
Arrondi.
Mais qu'est-ce que ça veut dire en
moi,
réalité?
Moi, je pense que ce que Demachy faisait, quand il faisait des accords, parfois, on doit mettre deux doigts différents sur la même frette. Et alors, pour faire ça, on doit tourner la main.
Un peu tourner la main.
Tourner la main. Mais je crois que Demachy, si j'ai bien compris, Demachy faisait ça en levant le coude. Et ça que Rousseau dit qu'il ne faut pas faire. Et Rousseau dit d'ailleurs, il a l'air de jouer la musette organisée, qu'il faut pomper avec les bras. Donc c'est probablement ça qu'il faisait. Et ça, je dis que moi je trouve que ce n'est pas du tout nécessaire de lever le coude. Non, on lève le poignet, c'est tout, on tourne comme ça. Il ne faut pas faire toutes les choses inutiles, toujours dans la vie.
Le naturel.
Le plus
dans la composition
possible,
et, voilà. Et dans la posture.
Mais ça encore, c'est bien d'écrire un pamphlet et de faire du...
bon. Alors, on ne va pas écouter du Demachy nu du Buisson, ni du Nicolas Hautmann. Il y a toute cette école aussi violistique hollandaise, hein, puisque Schenk est hollandais. mais on va plutôt écouter justement ce magnifique répertoire de Division Vile, Christopher Simpson. Nous sommes dans les années 1660 par vous, Wilhelm Keuken, et votre frère Sigiswald.
Et mon petit frère.
avec votre petit frère, Wieland
avec
Keuken.
Mon petit frère, oui.
Sigiswald Keuken. Dans
qui est plus grand que moi.
Dans ces Division Viol de Christopher Simpson. Alors, on se dit quand même, bon, on parlait de modulation, bien sûr, ça ne module pas, c'est le même thème, variation, etc. Mais langage extrêmement virtuose.
C'est assez virtuose, il était assez connu. Il a écrit un grand traité, comment improviser sur des basses. Division de ground, c'est un peu ça, ground, un fond, une basse.
Une basse obstinée.
Et avec Jenkins, hein, on se disait, François Joubert Caillès, ce sont dans ces années 1660 quand même, où il se passe beaucoup de choses. Hein, nous sommes bon, 20 ans avant les premières sonates en trio de Corelli ou même de Purcell en Angleterre. Ce sont des gens qui ont vraisemblablement dû entendre des violonistes anglais virtuoses comme Matthäus ou d'autres violonistes. Et quelque part, on se dit, ce langage-là, Jenkins, Christopher Simpson, tend à une virtuosité, mais qui a une saveur toute particulière.
Mmh. Ben, c'est aussi une période où la viole et le consort de viol commencent à être un petit peu moins populaires. C'est Charles II qui, je ne sais pas s'il est déjà là, en tout cas dans les années 60, mais il aime moins le répertoire de consort, en tout cas. Et donc, du coup, ça commence à devenir une musique encore plus réservée, encore plus élitiste. Et donc, ceux qui continuent à composer et à jouer de la viole et du consort sont vraiment des extrémistes et des extrêmes passionnés. Et donc, du coup, non seulement ils essayent d'imiter le violon avec leur virtuosité, mais aussi dans l'écriture de la musique de Jenkins ou même William Lowes à cette époque-là, ça part dans des trucs, les fantaisies à six viols, par exemple. C'est de la très, très grande musique. C'est de la musique expérimentale, quasiment. Ça va très, très, très loin.
Tandis qu'ici, ce n'est pas tellement expérimental. Hein. C'est assez régulier. C'est très classique dans le genre. Ouais. Mais c'est tellement bien fait et tellement balancé, je trouve. Il y a un équilibre parfait pour moi.
Et la musique de Johannes Schenk, justement, qui nous occupe, parce qu'on se disait, il pioche ici et là. Et à la fois, c'est quand même, vous me le disiez, Wieland, de la simplicité pure, quoi, qui brille d'elle-même.
Oui, oui, voilà. Mais il y a de la place sous le soleil pour toutes sortes de genres. Hein? Comme le Simpson qui écrit des choses très balancées, très bien, très classiques, très rapides, très, très virtuoses. Et puis Schenk qui écrit des choses très simples et Marais aussi. Pour moi, presque la plus belle pièce de Marais, c'est la pièce la plus simple. Il y a évidemment les choses virtuoses de Marais, mais ça me touche moins que certaines pièces qu'il ose écrire comme pour des enfants. Tandis que il y en a beaucoup qui n'osent pas faire ça, qui n'osent pas écrire les choses simples et qui n'arrivent pas à avoir quand même une prise d'émotion sur ce qu'ils font.
Alors ce qui est quand même intéressant dans cette période-là, justement des années 1690-1700, qui nous occupe ce matin, en Allemagne, se mettent en place les premières sonates en trio, alors avec, pour le coup, basse ou continuo, chiffré, etc. Et il y a un contemporain, vous avez attiré mon attention, François, sur ce compositeur, pas très connu quand même, Auguste Kühnel, qui compose des... Je crois que ce sont d'ailleurs quasiment les toutes premières sonates en trio
En Allemagne.
En Allemagne, à deux viols. Enfin, il dit, en gros, 14 sonates ou partita à une ou deux viols de gambe, con il basso continuo.
Oui.
Et c'est vrai qu'on...
C'est avec la basse continue, oui, peut-être. Mais il y a déjà, avant d'être des trios de Bieber, Schmelzer et tout ça, où il y a une viole et un violon, ou deux violons, ou trois violons, même désaccordés. Ça, on peut un peu faire la liaison avec la lyra à ce moment-là.
Et puis les deux dessus de Butler ou de William Young, qui sont ces compositeurs aussi anglais, qui sont en Allemagne, qui composent pour violon et basse de viol, donc instrument à deux dessus.
Oui, oui, oui. Mais en Angleterre, on en fait souvent aussi, hein, violon et basse de viol. Il y a beaucoup de choses. Jenkins a écrit beaucoup de pièces pour violon et basse de viol, et avec orgue ou avec clavecin, avec n'importe. C'était très à la mode de jouer du violon en Angleterre, déjà très tôt.
Et alors, on va écouter justement de Auguste Kühnel, qui lui aussi a fait le voyage en Angleterre hein, dans les années 1680.
Ça se sent beaucoup dans sa musique.
Eh ben oui.
Plus que dans la musique de Schenk, on entend plus des sonorités, justement. Ça rappelle un petit peu ce répertoire de diminution, comme on a entendu avant, là, de Simpson. Lui, dans l'idée de Gemischter Stil, de Goût réuni à l'allemande, pour le coup, on entend encore plus d'Angleterre, plus que dans Schenk.
Thank you.
Une sonate à deux en partie de August Kühnel, 1645-1700, interprétée par Philippe Pierlot, Reinhard Zipperling et Pierre Entaille au clavecin. Et c'est vrai qu'on se dit quand même pour que ce recueil de 1698, publié en Allemagne par ce compositeur, qui est un contemporain direct de Johannes Schenk, c'est de la très belle musique. Alors, retour avec justement Johannes Schenk. Qu'est-ce qu'on sait de cette musique, de son interprétation? Alors, question un petit peu bateau. Musique de professionnel, d'amateur ou d'amateur professionnel?
Bonne question.
Wieland.
Je crois qu'il faut faire attention avec les idées de professionnel ou amateur, parce qu'à l'époque, amateur, c'était les gens qui aimaient vraiment la musique et qui jouaient souvent très bien. Tandis que les professionnels, c'était les gens qui grattaient le violon dans les rues, entre autres, pour gagner leur pain quotidien. Alors souvent, il faut faire attention avec ces notions. Si c'est à la moderne, on croit que les professionnels, c'est les bons. Mais à l'époque, ce n'était pas toujours vu dans ce sens-là, je crois.
Ça a été joué par Johannes Schenk, ces duos?
Bon, c'est fort probable.
Il a écrit ça plutôt pour des élèves, pour des amateurs.
Il est assez connu comme gambiste, quand même.
Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de duos de chambre. Pour un maître et son élève, par exemple. C'est vrai que, en fait, en vous posant cette question-là, il y a en filigrane la notion, peut-être, la dimension pédagogique.
Oui, peut-être.
Parce que, en réalité, quand on joue cela, quel est l'enseignement principal qu'on retire de ce répertoire-là? Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de jouer à deux viols égales?
Mais c'est pas plus difficile que de jouer tout seul, c'est même plus facile parce qu'on est à deux pour le faire, on peut dire. Souvent les pièces seules sont plus compliquées, parce qu'il faut faire l'harmonie complète, tandis qu'à deux, chacun fait la moitié.
Mais ce que dit, par rapport à Schenk, c'est ce que disait Wieland tout à l'heure, c'est, je crois que la difficulté par rapport à cette musique-là particulièrement, c'est d'arriver à rester intéressant même si la musique est simple. Pas forcément rajouter plein d'artifices. C'est pas une musique qui a en elle-même énormément d'artifices. C'est une musique qui peut être très profonde. C'est une musique qui est extrêmement expressive, mais cette expressivité arrive à ressortir par la simplicité. Et donc peut-être la difficulté, c'est en effet de rester simple et naturel.
Et même de rester simple et naturel dans ce magnifique adagio con affetto. C'est noté comme cela par Schenk. Magnifique adagio con affetto d'une des sonates des Nymphes du Rhin de Johannes Schenk par vous, Wieland Keuken et François Joubert Caillet. Alors c'est vrai qu'en commentant quand même ce qu'on vient d'entendre, on se disait quand même une simplicité où les éléments de surprise ne sont pas des surprises avec mise en scène, attention, bam, tcha, voilà, mais qui sont des petits décrochages avec des halos d'indétermination harmonique, des petites choses comme ça. tout à fait savoureuse.
Oui.
Wieland.
Non, c'est très bien. J'adore cette simplicité qui déborde juste un tout petit peu et ça fonctionne très bien. Il n'abuse pas. Pour lui, c'est déjà beaucoup ce qu'il fait ici. Mm-hmm. Hein. Mais qu'en a fait-il ? Il remplit son contrat pour des titres qu'il donne. Hein.
François Joubert Caillet, alors c'est vrai que la notion du cadre et de la subjectivité, c'est quand même, quand on pense à Sainte-Colombe, ça c'est peut-être l'exemple le plus extrême. Mais rapporté donc à cette Allemagne, si on va un tout petit peu plus loin, dans les années 1730, il y a un compositeur comme Christoph Schaffrath, qui compose bien sûr encore pour la viole, parce qu'on sait, hein, vous me disiez, Wieland, on compose pour la viole, même après Carl Friedrich Abel, à la fin du 18e, 19e. Ça continue, mais alors là, par rapport au cadre, on a quand même la cour de Frédéric le Grand à Berlin. Schaffrath qui continue de composer des duos pour deux basses de viol encore dans les années 1740-1750 quand il est à la cour de la petite sœur de Frédéric le Grand, du nom de Amalia. Et là, c'est un répertoire à l'esthétique plus galante.
C'est sûr que c'est un peu plus tard. Et c'est vrai qu'il y a un regain de popularité de la viole de gamme à cette période-là. Est-ce que c'est lui, je me souviens plus, c'était l'élève par correspondance de Forqueray ? C'est bien lui, non ? C'est pas lui ?
Non, ce n'est pas Schaffrath. Ça, c'était Hesse.
Non, pas Schaffrath.
Hesse, c'est le type qui a suivi des leçons particulières en même temps chez Marais et chez Forqueray.
D'accord.
On a cette histoire.
Cette fameuse anecdote où suit des cours chez Marais Forqueray sous deux noms différents. Oui. Et puis une audition, et j'ai un élève super, tu vas voir. Et puis en fait, c'est le même. Pour ça qu'il retourne. Le père, hein, c'est le père. Et justement, ces duos de Christoph Schaffrath, très galants qu'on va écouter tout de suite, sont d'ailleurs forcément dédiés à ce virtuose de la viole de gamme, Ludwig Christian Hesse. On vous parlait de cadre, de style galant, la preuve par le son. Thank you. de Christophe Chaffrat, le dernier mouvement, l'Allegro, d'un duo pour deux viols de gambe, interprété par Guido Balestracci et Martin Zeller. Alors là, nous sommes à Berlin, dans les années 1740-1750, donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement galant, puisque la sœur de Frédéric le Grand, qui lui préférait bien sûr la flûte, hein, quant, etc., elle jouait de la viole, et on se dit quand même qu'il fallait un sacré niveau technique aussi pour jouer cela encore. Alors, Wieland Kuijken, François Jubercaillet, le mot de la fin concernant Schenk, dont, en fait, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il meurt en 1716, qu'il a exercé à Düsseldorf, et qui est ce compositeur qui mélange un petit peu tous les styles dans ses 12 sonates. Et pour refermer justement ce matin des musiciens avec vous, un petit fugato, assez virtuose à sa manière, François.
C'est un fugato qui est en deux parties. Au milieu de la pièce, il est dédoublé. Et donc du coup, ça fait un effet rhétorique, un effet de surprise, un peu comme d'habitude avec Schenk, c'est-à-dire que ça passe bien, ça reste très élégant, le passage passe tout en douceur, mais il y a quand même un effet rhétorique qui est assez sympathique, surtout pour un final.
Et le mot de la fin, Wieland Kuijken, si vous deviez résumer en quelques mots, l'exercice est difficile, mais justement, la beauté de ce répertoire des duos de Schenk.
Comme j'ai dit au début, déjà, je trouve que c'est une musique assez simple et avec des touches émotionnelles, parfois très profondes, comme la pièce qu'on a entendue, le si mineur, l'adagio qu'on a fait. Oui, il y a cette simplicité, cette honnêteté, je pense, et aussi une grande élégance. Oui. La musique ne doit pas toujours être difficile, je trouve. Dans les duos, la même chose. C'est joli quand c'est joli.
Un grand merci à vous.
Merci.
Et merci à vous, François Jubercaillet.
Merci.
Et on se quitte avec ce fugato qui est la dernière plage de votre disque de Johannes Schenk. Pour refermer ce matin des musiciens, Wieland Kuijken et François Jubercaillet dans cet Allegro presto de la sonate numéro 12 de Johannes Schenk, extrait de leur disque paru chez Richard Carr. Un grand, grand merci une nouvelle fois à vous deux. Alors justement, ce programme sera repris en partie en concert. Ce sera bientôt, donc le 10 juillet, au Festival de Namur. Donc il y aura du Schenk, il y aura du Sainte-Colombe et du Couperin autour de l'idée du thème du festival, des fleuves, donc un petit peu de Danube. François Jubercaillet.
En fait, le thème, c'est le Danube. Donc on va jouer quelques sonates d'un des recueils de Johannes Schenk, l'écho du Danube.
Ah oui.
On va faire entendre un petit peu du Rhin, avec les nymphes du Rhin. Mm-hmm. Et pour montrer un peu la scène, il y aura un peu de Sainte-Colombe et de François Couperin.
Donc ce sera le 10 juillet, on vous remet bien sûr tout ça sur le site du Matin des Musiciens, qui a été réalisé par Perrine Mingui, avec toujours Laura Jachimiak à la préparation, à la prise de son et au mixage, Valérie Lavalard et Romain Lenoir. Un grand merci à tout le monde. Passez un très bon lundi à l'écoute de France Musique. Vive la musique, vive les musiciens. Ciao, bye bye.